poche sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton. Lady, ma vie de chienne, de Melvin Burgess, collection Folio, de Gallimard. Le soleil brillait sur les trottoirs humides. Il y avait les gens, les magasins, Dobbs qui flashait sur moi, Michelle jalouse parce qu'elle voulait ce que j'avais, et Wayne qui me souriait, tout content, heureux que je le tienne par la main. Il était beau, j'étais belle. Le paradis, vous trouvez pas? Il s'est penché vers moi et m'a soufflé « On y va ?»« Tu veux aller où ?» je lui ai demandé. Je me suis retournée, Michel nous avait rejoints et nous regardait d'un air furieux. « Dans ta culotte !» a répliqué Wayne et j'ai fait « Oh oui !» Il a eu l'air surpris. Il s'est approché et m'a murmuré à l'oreille « Tu me rends complètement dingue !» J'ai souri. Il était mignon, il était à moi. Il m'a passé le bras autour des épaules et il a fait comme s'il reniflait dans mon oreille. J'ai gloussé. Ça m'a picoté de partout mais j'étais embêtée pour Michel. Ça, c'est le début de Lady, ma vie de chienne. Très vite, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir trouver d'intéressant dans l'histoire de Sandra, une gamine de 15 ans, qui ne pense qu'à boire, à faire la fête et à se taper des mecs. Question identification, ça commençait pas très bien. J'ai mis de côté mon préjugé et continué quand même la lecture, on ne sait jamais. Et rapidement, le problème d'empathie s'est envolé comme par magie, parce que la gamine se transforme en chien. Alors oui, pour l'identification, forcément, ça se corsait. Mais c'est là que l'histoire devenait plutôt intéressante. Au cours d'une virée en ville avec son petit copain du moment, pas le premier du mois, ni de la semaine d'ailleurs, comme elle en convient elle-même, Sandra, en voulant se dégager de l'étreinte empressée de celui-ci, heurte Terry le clochard du coin. Elle renverse accidentellement sa bière. Et ça, Terry, c'est le genre de truc qui le rend fou, qu'on fout de sa bière en l'air. Il se met à voir rouge, et sous le coup de la colère, il transforme les gens en chiens. Il y peut rien, c'est comme un don, si on peut dire. C'est pas la première fois que ça arrive, mais Sandra ne le sait pas encore. En tout cas, maintenant, elle a quatre pattes et sa vie de chienne commence. Elle rencontre Mitch et Bobby, d'autres chiens, anciens humains comme elle, qui vont l'initier à sa nouvelle vie, à sa nouvelle condition, et lui expliquer le mystère de sa métamorphose. Avec eux, elle expérimente une vie au ras du sol, où tous ses sens sont exacerbés. Le cours de son existence se réduit à quelques enjeux simples et vitaux, manger, courir, baiser. C'est la découverte de nouveaux plaisirs, de désirs étonnants et insensés, comme celui de manger un chat, bien juteux, au sang bien chaud. Mmh. Sandra retrouve Terry qui la reconnaît et la baptise du beau nom de Lady. Elle lui porte un amour de chien fidèle, et lui sait bien s'occuper de cette nouvelle compagne qu'il trouve encore plus jolie sous sa forme canine. Leur journée se passe sur le trottoir à mendier, entre moments de soûlerie et de décuvage, et tours complices joués aux passants. Le roman propose une réflexion sur la liberté, celle dont on rêve et qui envoie par-dessus bord les devoirs, les examens, le travail à trouver quand on sera grande, les responsabilités actuelles et futures. Tout ce que l'adolescente a lâché parce qu'elle veut vivre pleinement, s'éclater et arrêter de faire ce qu'il faut faire dans la vie pour faire plaisir aux uns et aux autres. Arrêter de chercher à correspondre à ce que les gens souhaitent de nous, les parents, les amis, les petits copains. C'est un livre gai et joyeux, dans lequel, comme Lady, on peut sentir avec bonheur le vent nous passer dans les poils. Mais la mélancolie perce aussi à travers la nostalgie du monde humain perdu. On est touché par les efforts que déploie Sandra pour réintégrer sa famille qui lui manque et pour reprendre sa place de fille et de sœur malgré son apparence animale. On est ému par cette gamine qui doit prendre en bout de course la plus importante de ses décisions. L'auteur, spécialisé dans la littérature jeunesse, livre un joli récit sur les notions de liberté et de responsabilité. Un récit pour penser au sens profond de nos choix. Un roman enthousiasmant et plein d'élan qui donnerait envie d'être chienne pour être une vraie lady. Lady, ma vie de chienne, de Melvin Burgess, collection Folio de Gallimard.
Retrouvez cette chronique sur radiobeton.com, rubrique des poches sous les yeux.
Même le vendredi soir, les chroniques passent sur béton. Ça, c'est ce que vous écoutez tous les jours de la semaine, trois fois par jour. C'est les chroniques des poches sous les yeux. Et ce soir, on est en direct au Joulin pour le speedbooking avec les chroniqueurs. Pas Marie, qui vient de parler, mais d'autres chroniqueurs, presque aussi bien que Marie, qui essayent de défendre leur bouquin. On est en train d'organiser le troisième speedbooking. Ça devrait avoir lieu d'ici quelques minutes, deux ou trois minutes, en direct des Joulins. Retour au Joulin, où nous sommes prêts pour le troisième tour du speedbooking avec presque trois nouveaux chroniqueurs, puisque Cédric est de retour avec Flavie et Patricia, et trois nouveaux clients, trois nouveaux auditeurs qui vont écouter les speedbookers, essayer de comprendre ce qu'ils veulent vendre. Alors, on a décidé que ça serait deux minutes, cette fois-ci, Cédric, tu vas avoir deux minutes, fais gaffe, parce que c'est beaucoup plus long, c'est deux fois plus que tout à l'heure. Donc, ne va pas trop vite. C'est parti pour le premier tour de ce speedbooking.
C'est moi qui chronique. Non, c'est moi qui écoute. Donc, le roman que je dois présenter, il me reste déjà plus de 30 secondes, c'est donc un roman espagnol, un écrivain espagnol contemporain, qui s'appelle Javier Tomeo. Le titre, c'est Monstre aimé. Voilà. Et alors, c'est sur un thème super intéressant, puisqu'en fait, c'est un mec qui vient postuler, qui est à la recherche d'un emploi, qui entre dans un bureau pour postuler, donc à la base. On a une situation anecdotique et bien connue. Ça semble se présenter comme un entretien classique, voilà. Et en fait, petit à petit, ce qui est intéressant et assez caractéristique de cet auteur-là, c'est qu'on va petit à petit sombrer dans l'absurde. C'est-à-dire qu'en fait, on va découvrir rapidement que le narrateur, donc celui qui est à la recherche d'un emploi, il a plus de 30 balais, il n'a jamais travaillé parce que sa mère n'a jamais voulu qu'il travaille, elle n'a jamais voulu qu'il sorte de chez lui parce qu'elle voulait le protéger. Donc c'est la première fois qu'il postule et petit à petit, en fait, on s'aperçoit que ça va se transformer en séance de psychanalyse, puisque on voit bien que le mec qui postule a de gros soucis, et ça va attirer l'attention du recruteur parce que finalement lui il a les mêmes soucis avec sa maman, et donc petit à petit les questions qui vont être posées dans le cadre d'un entretien qui théoriquement devrait être normal vont être des questions quasiment que pourrait poser un psy. Et voilà, et ça se fait tout en douceur, si bien qu'au départ on se laisse aller par ce qui semble être un échange presque normal, quoi. Et petit à petit on se voit bien qu'on est surpris par les réactions de l'un ou de l'autre, et en plus il y a une espèce de relation qui va s'instaurer entre les deux personnages. C'est-à-dire que le recruteur, qui a priori était en position de domination, et puisque c'est lui qui va prendre la décision de lui accorder ou pas le travail, petit à petit va être dans la position du soumis, et celui qui va prendre le pouvoir un peu dans l'échange, finalement, c'est celui qui venait chercher le job, quoi. Et ça prend presque l'allure d'un roman policier.
C'est terminé.
Je pense qu'on va rien.
C'est court, hein, 2 minutes. Vous tournez, puisque les speedbookers, eux, ne tournent pas. Les speedbookers ont des livres, donc ça serait compliqué. Ils sont chargés, il faut qu'ils se concentrent. Et après avoir parlé de travail avec Patricia, on va parler d'un mec un peu dingue. C'est celui-là que tu chroniques. Ouais. Ah, tu peux changer. Est-ce que vous êtes prêts pour ce deuxième tour? Flavie, t'as décidé si tu changeais ou pas? Tu es en direct.
Ah, parce que d'accord, c'est moi.
Là, tu es en direct.
Et donc, je vais voir avec ma chroniqueuse.
Ok, c'est parti.
Bonjour. Top. Alors, bon, moi, c'est entre deux. Un qui est plutôt... un qui est plutôt dans la veine, on va dire, qui est très drôle même. Et un moins, mais qui est super bien aussi. Les deux sont très bien. Est-ce que tu es un roman un peu plus classique dans la forme ou un truc un peu plus déjanté? Alors, on va rester sur Crocodile, de Carl Yassen. As-tu déjà lu du Carl Yassen? Non. Donc, c'est un auteur américain, floridien même, et donc qui, en général, a des personnages complètement extrêmes, complètement barrés, complètement débiles. Et c'est très rigolo. Donc là, le pitch un petit peu, l'idée de départ, c'est une femme qui vit dans sa carlo avec son fils, tu sais, un peu les images qu'on voit dans les films dans la Floride profonde, et qui ne supporte pas de se faire démarcher téléphoniquement par des mecs qui veulent lui vendre tout et n'importe quoi. Et un soir, c'est la goutte qui fait déborder le vase, il y en a un qui l'appelle alors qu'elle est en train de bouffer avec son fils, ça la gonfle, et là, elle décide toute seule dans sa tête, comme elle est un petit peu quand même barrée, de le retrouver, coûte que coûte, de le faire venir en Floride et de lui faire payer le fait d'avoir dérangé son repas. Donc elle monte tout un truc, si tu veux, elle arrive à retrouver ses coordonnées vu que le mec s'était présenté. Et donc elle le rappelle à son tour, lui fait croire qu'il a gagné un super plan pour venir visiter un projet immobilier en Floride et gagner un tour en kayak dans les îles. Et donc son idée, après elle sait pas trop ce qu'elle va en faire une fois qu'il sera sur place, mais en tout cas elle veut l'emmerder, l'embêter. Donc elle lui offre un voyage assez frais pour 2 personnes en Floride. En parallèle, il y a d'autres personnes qui sont qui vivent à côté d'elle, eux aussi ont des histoires pas croyables. On se retrouve avec un Indien qui fait du tourisme dans les îles, qui se retrouve avec un Maccabée dans son bateau. On se retrouve avec des étudiants partis faire une fête sur les îles, et puis il y en a qui sont barrés, il y en a une qui se retrouve toute seule. Et donc le fameux démarcheur téléphonique arrive en Floride, sauf qu'il ne vient pas avec sa femme, il vient avec sa maîtresse. Mais figure-toi que la femme savait qu'il avait une maîtresse, donc le fait suivre par un détective privé. Donc on a aussi le détective privé qui arrive. Et donc en fait, t'as toutes ces personnes-là qui se retrouvent sur les îles de Floride. Et ça devient du n'importe quoi, c'est une histoire de... Enfin, tout le monde se court derrière, évidemment. Bon, il y a un peu de flingue, mais pas trop non plus. Enfin, bon, aussi, il y a un petit peu de sang à la fin, ça dégénère un petit peu. Mais étant donné que ça reste très décalé, c'est très rigolo.
C'est fini pour ce deuxième tour. Et Flavie, t'as beau parler vite, tu n'as pas terminé avec deux minutes. Vous pouvez tourner pour le troisième. Troisième tour, on va parler d'anarchie maintenant. Non, merde. Je mettais tous mes espoirs dans Cédric, mais non, on va pas parler d'anarchie.
Je te permets pas de parler de mon livre avant que j'en parle. Déjà.
Cher ami, on va être très strict avec toi. Ne parle pas avant que le gong ait retenti. Vous êtes prêts? C'est parti. Cédric, tu es en direct.
Alors, enchanté. Je vais te parler de Travailleurs de la nuit, un livre de Alexandre Jacob. Alexandre Jacob est un libertaire qui est surtout connu pour ce bouquin et aussi pour les textes qu'il a écrits qui s'appellent « Abat les prisons, toutes les prisons » parce qu'il a fait 25 ans de bagne pour tous les méfaits qu'il a commis. C'est un voleur qui disait qu'il volait les voleurs, c'est-à-dire qu'il volait les riches. Alors ça paraît un peu facile comme ça, et politique, et gauchiste, et anarchiste, etc. Mais ce qui est intéressant à travers Travailleurs de la nuit, lui il est né en 1879 et mort en 54 à Amboise d'ailleurs, pas loin d'ici, c'est qu'en fait il raconte comment il commet ses méfaits, ses vols. Donc à l'époque il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de TNT, il n'y a pas de... Enfin peut-être, mais en tout cas il n'utilise pas de bombes, il n'a pas de bagnole, il n'y a pas de fourgon pour mettre... Donc voilà, donc il est obligé de se déplacer toujours avec des petites sacoches qui remplit, il ne peut pas partir avec des gros butins. Il n'a pas de téléphone pour contacter ses complices, il n'a pas de voiture non plus puisqu'il n'y en a pas à l'époque. Et des moments assez intéressants qui montrent un peu... l'époque du moment, c'est-à-dire une course-poursuite entre le gendarme et le voleur, mais cette fois-ci c'est en race campagne, ça arrive plusieurs fois dans le bouquin, Travailleurs de la nuit, où les gendarmes le voient à 2 km et le coursent pendant toute la journée, ils sont crevés, ils marchent, mais les gendarmes n'ont aucun moyen de contacter leurs collègues, puisqu'il n'y a pas de téléphone, et n'ont pas de moyen de le rattraper, puisqu'il n'y a personne, les campagnes sont un peu vides, il n'y a pas autant de population qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bagnole qui passe, où beaucoup de gens marchent, et donc finalement on a des courses-poursuites comme ça, très lentes, pas à la manière des cow-boys à l'époque, puisqu'il n'y a pas de chevaux non plus, enfin ou très peu, où ils sont utilisés pour faire des travaux des champs, et donc il est obligé d'attraper un train, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est le côté politique de ce personnage qui redistribue l'argent à des gens plus pauvres que lui, aussi pour des actions militantes, puisque c'était un libertaire anarchiste confirmé et convaincu, et c'est quelqu'un qui était assez cynique et qui a beaucoup d'humour, donc c'est pour ça que c'est aussi agréable à lire, puisque c'est quelqu'un qui explique par contre, par exemple lors de son procès, lors d'un de ses procès, qui explique que grâce à lui, la technologie des coffres-forts et des serrureries eh bien, progresse, puisque grâce à lui et tous ses amis voleurs, eh bien, comme il casse les coffres-forts et les serrures, il faut bien les empêcher de le faire, donc il fait progresser la technique de fermeture des portes, etc., et des fenêtres, et voilà.
Voilà, c'est fini. Bravo pour ce troisième speedbooking. Donc, comme tout à l'heure, les clients ont gagné des livres que Odile va leur distribuer. Et je passerai parmi eux d'ici quelques minutes, une fois que vous aurez fini vos bières. Bien oublié ce qu'on vient de vous raconter pour essayer de comprendre ce que vous avez retenu de ces trois chroniques. A tout de suite. De se débriefer donc de ce speed booking, Cécile, qu'est-ce que tu as retenu?
Eh bien, j'ai retenu trois bouquins assez sympas. Pour une fois, on ne parle pas que de polar, donc j'ai bien aimé. Du coup, les trois m'ont donné envie de lire. Celui de Flavie m'a bien fait rire. J'ai bien aimé le coup du canular téléphonique, parce que chez nous, on fait beaucoup de canulars téléphoniques. Et
chez nous, c'est qui?
C'est Cédric et chez moi. Et du coup, on...
Un jour,
on a même dit que l'autre était mort pour que l'autre il arrête de nous appeler. Donc voilà. Donc je pense que ça me donne envie de le lire. Voilà.
Merci. Et toi alors?
Qu'est-ce que j'ai retenu? Trois histoires bien différentes, dans des registres bien différents, si ce n'est qu'il y en a deux qui vont ramener un petit peu de loufoque. Les trois, cela dit, semblent un peu loufoques. Et si je dois faire un choix, j'irai vers celui de Flavie aussi, le crocodile. parce que c'était très très bien présenté, très bien amené, avec beaucoup de détails. Et puis c'est apparemment un livre qui a énormément de rythme, qui est complètement déjanté de ce qu'elle nous expliquait. Et voilà, si je dois en choisir un, c'est celui que je choisirais.
Mais Cédric a eu l'air de te surprendre, tu faisais une tête en regardant. Ouais.
Parce que son personnage était assez intrigant, il en parlait assez bien aussi. Et pour le coup, j'essayais de je réfléchissais à qui, quel personnage il pouvait me faire penser. Donc c'est peut-être... qui n'en était pas. Mais...
Flavie, 2 sur 3, on va voir si tu fais le grand chelem.
Alors, 4 sur tenue, c'est...
Alors, moi j'ai retenu le livre que nous a lu Patricia, enfin qu'elle nous a résumé Patricia. Je trouvais ça... Non, ce qui était rigolo, c'est que ça fait un peu partie de mon boulot, donc ouais, je trouvais ça rigolo de voir ça sous un autre angle. Et puis, l'aventurier, l'espèce de Robin des Bois... voilà, c'est ça. Ça, j'ai évidemment envie de le lire aussi.
Bien, donc bon, on va dire que les trois ont gagné, comme d'hab. Et je vais peut-être interviewer Flavie juste après sur son autre livre qu'elle a essayé de chroniquer, qu'elle n'a pas pu chroniquer parce que personne n'en a voulu, les Beatles. Ah bah j'ai pas entendu, donc tu vas m'en parler. Retour au Joulin pour le speedbooting, je suis avec Flavie. Enfin, je vais donner un micro parce qu'on on est riche. Je sais pas s'il est ouvert, Bonjour, ça va?
Ouais, ça va bien.
C'est comment alors, c'est comment
je change de micro, c'est comment de faire du speedbooking?
Eh ben en fait c'est assez chaud hein, parce qu'on se rend pas tant du temps qui passe. On prend plaisir, on parle du livre, on est speed quand même. Non, mais du coup, c'est vrai que ça passe super vite et voilà, et ça, le temps s'arrête. Et
choisir son livre, c'est compliqué, ça?
Ouais,
il y a vraiment des livres qu'on veut défendre?
C'est compliqué parce que je pense que pour donner vraiment envie à quelqu'un de lire un livre, il faut vraiment l'avoir beaucoup aimé. Et finalement, même quand on est... je pense que quand on est grand, enfin, quand on lit... des bouquins qui nous marquent, en fait, c'est même maintenant, hein, c'est de prendre un peu de recul et de se dire, tiens, par exemple, l'année dernière, quels sont les bouquins qui m'ont marqué, dont je me souviens, dont je serais capable de reparler. On s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça. Et ouais, voilà, des livres qu'on a vraiment envie de partager. Après, voilà, quand on est toujours un peu critique après, mais.
Alors, les Beatles de Lars.
Pas les Beatles, hein, Beatles tout court.
Beatles, alors pourquoi Beatles? T'étais une fan des Beatles?
Pas du tout, non pas que je n'aime pas, hein, j'apprécie. Non, ça c'est un livre que j'ai lu récemment et pour le coup, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une claque comme ça en lisant un bouquin. Voilà. Et quand j'ai lu, je suis tombée dedans. C'est un bon vieux pavé, mais vraiment qu'on a envie de reprendre. C'est j'ai trouvé ça plein de sensibilités. Enfin, j'ai Bon, je sais pas, je vais peut-être pas reprendre l'histoire parce la chronique est sur le site.
Ça parle pas des Beatles non plus.
Non, en fait, ça parle de quatre enfants norvégiens d'Oslo qui sont eux fans des Beatles. Mmh. Et comme l'histoire se passe à la fin des années 60, c'est aussi elle est contemporaine de l'actualité musicale des Beatles. Et en fait, toute leur on les suit de l'entrée, enfin de la sorte de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Et pendant toute cette période, en fait, à chaque fois qu'il y a une sortie d'un single, d'un album, d'un film, des Beatles, en fait, ils se retrouvent, voilà, pour se retrouver autour de cette sortie. Et c'est ce qui les soude et c'est ce qui les rapproche à chaque fois. Mais en fait, le livre, vraiment, c'est eux, leur enfance, adolescence et entrée dans l'âge adulte, quoi.
Ok, donc c'est un livre que tu as chroniqué et qu'on peut retrouver sur le site Des Poches sous les yeux.
Tout à fait, et que je conseille très très chaleureusement.
Donc si vous aimez les chroniques de Des Poches sous les yeux, vous pouvez les retrouver sur notre site Des Poches sous les yeux et retrouver Flavie. Je ne sais pas si on tape Flavie, est-ce qu'on te retrouve? C'est même pas sûr.
Sur Google ou
On va commencer par Des Poches sous les yeux, après on verra Google. Est-ce que tu as raconté que même les auteurs arrivent à trouver des chroniques? C'est vrai, on a des auteurs qui écrivent en disant j'ai écouté une de vos chroniques et je voudrais bien en discuter avec vous. Et d'ailleurs, on va en discuter avec eux. Et des auteurs supra connus. Donc, Des Poches sous les yeux devient mondial. Voilà. On se retrouve bientôt pour peut-être un quatrième speedbooking en dehors des Joulins. Retour au Joulin pour le quatrième tour du speedbooking de l'équipe Des Poches sous les yeux en direct sur Radio Béton avec. Jimmy, Vincent et la patronne, comme dit l'autre, Odile, qui passera en dernière parce qu'elle n'est pas prête et elle a négocié, donc elle va se chauffer et à la fin, elle pourra faire en direct sa chronique. Et Jimmy, c'est toi qui sera en direct sur Béton tout de suite. Vous avez 2 minutes, c'est parti.
Salut Eric. Est-ce que tu aimes la...
Salut.
Est-ce que tu aimes la poésie?
Ah oui, j'adore.
Et le côté oriental, le soleil levant, tout ça?
Ah, alors là, tu peux pas tomber mieux.
La photographie?
Oui, aussi.
Eh ben écoute, il faut que tu lises des haïkus. Hein, il n'y a pas d'autre solution. Parce que c'est les émotions en direct. C'est vraiment de la littérature impressionniste. Couvert de papillons, l'arbre mort est en fleur. Hein. Tout de suite, c'est visuel. Hein. Hein, c'est ça. Hein. En fait, on s'en fait tout un fromage, mais en fait, c'est simple comme une photo. Tu te mets devant, tu le lis, tu l'écoutes, et voilà. Ça marche pas, mais c'est direct. Pas besoin de méditation zen, d'être branché en direct sur la nature. C'est une impression directe. Être japonais, être sensible à la beauté du haïku, c'est pas nécessaire. Hein. On peut l'aborder n'importe comment. Bon, ceci dit, il y a sûrement quelques subtilités à côté desquelles on passe. Hein. C'est un peu comme nous, traduire la disparition de Perec en japonais. Je pense que ça perd un petit peu de son parfum, si tu veux. Alors nous, c'est pareil, il doit y avoir des trucs culturels qui...
Ou les alexandrins en japonais.
Bah oui, c'est pas la même chose, hein, forcément. Mais bon, globalement, je pense qu'on peut y accéder directement et c'est extrêmement agréable comme, comme lecture. Moi, c'est un truc que je lis de manière ponctuelle, comme ça, j'en lis un, deux, trois, et puis en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, l'état d'esprit, etc., il y a toujours un truc qui va te faire tilt et qui va te faire dériver tes pensées, te voir une image, etc. Moi, c'est un truc que je garde globalement dans mon sac. Et puis, c'est facile à faire. Tu peux même t'essayer à écrire des haïkus. 5, 7, 5, c'est le nombre de pieds. Hein. Et il y a plein de gens qui essayent d'en faire et qui en font. Il y a même, j'ai même chroniqué il y a peu de temps, Petit Manuel pour écrire des haïkus de Philippe Costa. Il t'explique comment lui il le fait. Il est français, il a vécu au Japon. C'est un haïkiste chevronné, on peut dire. Hein. Mais il y a plein de petites choses qui permettent d'être à l'essence de la chose. Ça te tente?
Oui, oui, oui.
Ah.
Et voilà. Et voilà, vous pouvez changer de partenaire. Ouais, tente ta patronne. Après avoir parlé des haïkus avec Jimmy, on va partir à l'aventure avec Vincent, s'il est prêt. Dans le Montana?
Dans le Montana.
Bon, c'est parti alors, c'est tout de suite.
Alors, est-ce que tu as vu Jeremiah Johnson, Robert Redford, avec sa barbe, hein, compère, hein, un peu, on est dans la nature, voilà. Est-ce que tu as vu Into the Wild? Sean Penn, je quitte la civilisation, je m'en vais m'isoler, je suis seul et je regarde mon nombril d'occidental et oh comme c'est dur. Eh bien, Pete Fromm nous propose un récit autobiographique d'un exil volontaire dans le Montana pendant tout un hiver. Étudiant attardé dans le club de natation, il sait pas trop ce qu'il va glander. On lui propose, est-ce que tu veux aller travailler à la réinsertion des saumons dans l'Indian Creek, cette rivière du Montana? Et au lieu de dire non, ce con, il dit oui. Idiot. Et donc, il va passer l'hiver tout seul dans le Montana. Pas de copains, pas de copines. Des forestiers qui vont lui dire, bon ben mon coco, il va falloir couper du bois, hein, parce que pour te chauffer, ça sera quand même nécessaire. Il va falloir quand même que tu poses quelques pièges. Hein, faut te nourrir. Et donc, c'est le récit qu'il restitue une quinzaine d'années après cette expérience un peu bizarre, un peu rude, parce que bah, des fois, sa vie est quand même en danger. Il y a de la neige, beaucoup de neige, il fait quand même très très froid. Et quelquefois, son expérience un peu de bab, de réinsertion du saumon dans l'Indian Creek passe au second plan, parce que ce dont il est question, c'est quand même sa peau. Voilà. Et une fois qu'il arrive à survivre et à sauver sa peau, parce qu'il y était allé comme un pied nickelé, eh bien, on découvre aussi le rapport de l'homme face à la nature, alors que c'est un étudiant attardé, hein, un geek de base. Et donc, un grand plaisir de se voir, avec des lunettes, certainement, comme d'autres, et un grand plaisir de se voir face à la nature, face à lui-même, sans l'introspection qu'on avait dans Into the Wild, qui était un peu prise de tête. Donc là, quelque chose de sain, de naturel, qui donne envie d'aller dans la nature, de respirer l'odeur de la neige fraîche, d'entendre son pas crisser dans la neige fraîche, et puis de se dire que finalement on n'est que des bêtes. Mais c'est bon. Donc.
Ça s'améliore de tour en tour. Il vous reste un tour, et on va enfin avoir la patronne qui va nous parler de spiritualité, de religion, de vie saine et équilibrée. Juste
la patronne,
c'est maintenant, c'est parti.
Alors, je te propose de découvrir l'année où j'ai vécu selon la Bible de A.J. Jacobs. A.J. Jacobs n'est pas un écrivain, mais un journaliste. Donc, en fait, il s'agit d'un article de 500 pages sur la Bible. Il a lu différentes versions de la Bible, différentes traductions, et il en a tiré 700 règles. Et il a décidé pendant un an de faire du journalisme par immersion et de vivre selon les 700 règles qu'il avait choisies. Et donc, ce livre est vraiment très, très amusant parce que ce n'est pas évident. Arrêtez de jouer avec mon micro. Ce n'est pas évident de vivre en suivant les règles de la Bible. Alors, bien sûr, aimer son prochain, c'est possible. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas. Ça, c'est facile. Mais par contre, quand il s'agit de tuer les bœufs ou de tuer les magiciens ou de lapider quelqu'un qui a commis l'adultère, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on le voit un moment dans un parc en train de jeter des graviers sur son copain qui vient de commettre l'adultère. C'est très très amusant, mais en même temps ça fait vraiment froid dans le dos, parce qu'aux États-Unis il existe toujours des groupes religieux qui vivent en adaptant littéralement la Bible. Donc il y a les Amish, les témoins de Jéhovah, les juifs hassidiques, et puis aussi les créationnistes qui vont refuser toute idée d'évolution. Pour eux, le monde a été créé une fois pour toutes par Dieu, et donc pas de cours d'éducation sexuelle, etc. Donc c'est très bizarre. Alors ce livre est très drôle, instructif, parce que chaque chapitre commence par un des préceptes de la Bible. Donc on apprend beaucoup de choses. Et puis en même temps, donc comme il nous livre son journal intime, on voit toutes les transformations physiques qu'implique cette expérience. Donc au début, tu as des photos, on le voit un petit journaliste en t-shirt Gap, et à la fin, c'est une espèce de Moïse en toge blanche.
Merci. Merci aux chroniqueurs, merci aux chroniqués. on va essayer de comprendre si vous avez retenu quelque chose, en particulier si la Bible vous a inspiré. On revient dans quelques minutes au Joulin. C'est le débrief du quatrième speedbooking en direct sur béton, en direct des Joulins, avec Bouille. Qu'est-ce que tu as retenu de ces trois magnifiques chroniqueurs?
Alors, bah, essayer
de leur salade.
Bah en fait, il y a Jimmy qui forcément qui a fait vibrer ma fibre nipponophile, donc forcément avec ses haïkus.
T'es fan de poésie?
Non, pas du tout. En fait, c'est pour le mettre à l'aise. Mais par contre, je suis gros fan du un peu tout ce qui est japonais, quoi. Donc, je me doutais bien que ça allait arriver là-bas, parce que je sais que lui aussi. Bon.
Les haïkus de Jimmy et.
Et puis le livre de Vincent donc je me rappelle plus du tout le titre. Voilà, Indian Creek, voilà. Merci Vincent. Qui avait l'air pas mal aussi, avec ce
invitation au voyage.
Ouais, c'est cet étudiant geek qui part dans le wild. Voilà. Bon, après, l'année où j'ai vécu selon la Bible, alors là,
pas,
tu vois, ouais,
pas.
C'est bon, on n'a pas trop de nommer copain. L'année où j'ai vécu selon la Bible, ça donne pas trop envie de vivre selon la Bible, déjà, ouais. Je pense. Et puis,
moins convaincant. Moins convaincant, bon, tant pis, voilà. tu es viré. À bientôt, Barboy. Pascal,
oui.
Qu'as-tu retenu?
Deux livres.
Ah, vas-y, parle librement.
Bon, alors, le premier, c'était comment vivre avec la Bible, là, machin, que j'ai trouvé. Non, c'est somme toute très, très intéressant. Ah. Le plus bien dit qu'en fin de compte, c'était un Diane Gris, que je dois lire quand même. C'est quand même folle. Pas Fayot, non. Non, mais c'est vraiment. Je trouve ces idées de s'immerger dans une philosophie comme ça, et puis d'écrire, et puis de se transformer même physiquement. Moi, je suis super admiratif, et c'est la description de cette espèce de descente ou de cette immersion qui me fascine et m'intéresse.
Ça te donne envie
de lire, oui.
D'accord.
Voilà, c'est ça. C'est moi, je suis fan de Larry, j'ai connu son papa. Autrement, j'ai mis sur le... m'a bien vendu le truc, parce qu'au début, moi, la poésie, on pourrait dire, c'est ni bon ni mauvais, mais... j'ai placé quand même. Bon, ça c'est fait. Mais non, mais c'est l'haïku, c'est quelque chose de super intéressant, de super beau, et c'est à beaucoup plus de portée qu'on croit. Et savoir qu'il y avait des bouquins qui expliquaient comment écrire les haïkus, notamment, j'ai trouvé ça assez pertinent, enfin assez fin. Puis le choix, la sélection semblait. Ce qui était amusant, c'est qu'il avait mis des petits signets sur les
il avait préparé son
truc. D'haïku, et t'avais plus de signets que de pages presque. À un moment, tu te dis, le livre doit être bien.
Jimmy, bravo, joli coup, les haïkus. Et alors, et toi,
Alexandra. Alors, moi aussi, il y en a deux qui m'ont bien tenté. Il y a celui sur la Bible, qui doit être... intéressant, où je pense qu'on doit apprendre plein de choses, et je trouve que l'expérience de se plonger comme ça et de suivre les préceptes de la Bible à la lettre, ça doit être vraiment une belle expérience. Mais je pense que j'aurais pris Indian Creek, où j'aime bien ce côté un peu en roman américain, même si c'est une autobiographie, ce côté aventure de ce petit jeune qui se retrouve à garder des œufs de saumon. Je trouve que l'idée est assez drôle, et que je suis plus dans une ambiance un peu roman. Et les haïkus, j'aime bien, je trouve ça très beau, mais c'est moins ma sensibilité du moment.
T'as déjà lu des bouquins de voyage comme ça?
Ouais, j'ai déjà lu des bouquins de voyage, ouais, et j'aime bien, je pense que je choisirais celui-là.
Bien, merci. On prépare le, je sais plus où on en est, le cinquième speedbooking, et on se retrouve en direct sur Béton. Retour au Joulin pour la spéciale speedbooking de Des Poches Sous les Yeux sur Radio Béton. Avec des chroniqueurs maintenant bien connus du bien bourré aussi, oui, Flavie, Cédric et Pascal, et de nouveaux clients, de nouveaux speedbookés qui vont écouter nos chroniqueurs et essayer de comprendre ce qu'ils disent et de voir s'ils veulent par hasard lire leur livre. Je vous rappelle, vous avez 2 minutes par chronique, ça va faire 3 fois 2 minutes. Et que vous passez en direct à l'antenne, en tout cas l'un de vous passe en direct à l'antenne, pas les trois en même temps, heureusement. C'est parti, vous êtes prêts? Qui commence, tu verras bien. C'est parti, vous êtes en direct, c'est maintenant.
Alors, j'ai l'impression que c'est moi qui commence.
Non, viens par là.
Alors, donc toi, tu aimes bien.
Est-ce que
t'as un style de prédilection? Non? Eh ben, écoute, à ce moment-là, je vais te. Est-ce que tu connais Carl Yassen? Donc je vais te présenter Crocodile, qui est un roman floridien, enfin c'est un auteur américain de Floride, et qui est un polar déjanté, débile, décalé, drôle à souhait, on va dire. Et Carl Yassen aime bien décrire des personnages toujours un peu extrêmes, barrés dans leur folie. Et là, on part en fait avec une femme qui habite avec son fils dans sa carlo, tu sais, un peu les images que t'as dans les films américains, dans la Floride profonde, et qui supporte pas d'être dérangée pendant qu'elle mange par les démarcheurs téléphoniques, tu sais, qui vendent les panneaux photovoltaïques ou des emplacements super bien. Et donc, elle en a ras-le-bol, et c'est quasiment tous les soirs. Et un soir, un démarcheur la rappelle, et c'est un peu la goutte d'eau, et elle pète un câble, et elle décide coûte que coûte de faire venir ce mec en Floride, et de lui faire payer pour l'avoir dérangé pendant son repas. Donc elle se débrouille pour trouver, parce que comme le type s'était présenté avec sa boîte, elle se débrouille pour le retrouver. À son tour, elle se fait aussi passer pour une démarcheuse. Et donc forcément le mec c'est un peu complice parce que c'est aussi son boulot. Et en fait elle monte un gros bateau, elle lui fait croire qu'il a gagné un super voyage en Floride, et elle veut le faire venir avec sa femme. Après c'est pas, hein, son plan s'arrête un peu là, c'est pas ce qui va se passer après. Et sauf que le mec vient pas avec sa femme mais avec sa maîtresse, parce qu'il tombe dans le panneau, et qu'après t'as tout un panel de personnages autour de ça, un indien qui se retrouve avec un cadavre dans son bateau, une fille qui s'est fait planter par ses copains sur une des îles où elle veut emmener le mec, le détective qui suit justement le fameux démarcheur et sa maîtresse, parce qu'évidemment la femme avait bien vu qu'il avait une maîtresse et qu'il en veut à son fric. Donc en fait, t'as toute une galerie de personnages, tous plus débiles les uns que les autres, qui se retrouvent un peu tous ensemble dans ces îles de Floride. Et ça part complètement en live. Bon, évidemment, il y a un petit peu de sang, on est dans le polar, mais c'est pas non plus, il y a pas des flics, quoi. Enfin, tu vois. Mais tout le monde, c'est un peu un jeu du chat et de la souris entre tout le monde, et qui vire à la fin un peu gore, mais c'est quand même super rigolo. C'est pas trash, et c'est très drôle.
Ouais, c'est fini pour Flavie en direct en tout cas, mais vous allez pouvoir bouger, changer de partenaire tout de suite. Il faut vous lever et changer. Elle veut pas partir, elle était bien avec Flavie, elle veut pas bouger. Donc c'est parti, et cette fois-ci, Cédric, c'est toi qui es à l'antenne.
Oh. Eh bien bonjour, je vais parler de Didier Denax, qui est un écrivain assez militant, qui a beaucoup écrit sur les faits historiques méconnus. Donc à l'époque, en 84, il avait écrit Meurtre pour mémoire sur octobre 61, sur le meurtre à Paris des Algériens qui manifestaient. Et en 84, c'était déjà assez inédit. Il avait aussi écrit il y a très longtemps sur l'immigration dans la résistance. Et là, c'est un bouquin que j'ai découvert il y a peu, de Didier Denax, qui s'appelle Galadio. En fait, c'est sur les Noirs allemands. Alors comment ça se fait qu'il y avait des Noirs allemands dans les années 30, et comment est-ce qu'ils ont été traités par rapport à la montée du nazisme, etc. Et donc, à travers cette fiction, parce qu'il aime bien traiter les faits historiques à travers des fictions, et donc là, c'est le personnage de Ulrich, qui est un jeune Noir, mais qui est allemand, pas de souche, mais presque. Et en fait, c'est que dans les après le traité de Versailles de 1919, les Français ont occupé une partie de l'Allemagne. Donc là, entre autres, cela se passe dans la Ruhr, dans donc tout le bassin industriel du sud-ouest de l'Allemagne. Et donc, pour vraiment humilier les Allemands, ils ont carrément pris, c'est des Africains, des militaires africains français, donc des colonies françaises qui ont occupé cette partie du pays. Donc évidemment, les Africains ont fait connaissance avec les Allemands de local, etc. Et il y a eu copulation, il y a eu échange, et donc il y a des enfants allemands noirs qui sont nés sur le sol. Et après, les Français et les Français de pays d'Afrique se sont fait aussi éjecter en 1921. Mais ces jeunes noirs sont restés dans le pays. Et après, on suit avec eux comment, avec la montée du nazisme, Ulrich, donc ce personnage, vit la montée du nazisme, au même titre que les Juifs. On a aussi, pas castré, mais en tout cas, on leur a coupé les moyens de procréer. Donc, tous les Noirs ont été envoyés dans des cliniques. Et lui, surtout, la particularité de Ulrich, c'est qu'il a réussi à s'en sortir, puisqu'il a été envoyé pour des tournages de grandes productions allemandes en Afrique, au Sénégal, pour faire des grands films de propagande sur le colonialisme, etc., etc., et sur la grandeur de l'Allemagne à travers les Noirs africains. Donc,
Et oui, c'était trop court. Non, c'était trop court pour Cédric, mais... Alors, Pascal fait sa com, offre des cadeaux... On est en direct, Pascal, il faut que ça bouge. Allez. Il offre du... Bon, c'est bon, Pascal a fini son merchandising, vous pouvez bouger. Et pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 heures, il y a 1 heure, on va reparler de Terry Pratchett en direct sur Béton. Si vous voulez tourner. Allez, 2 minutes de Terry Pratchett et c'est la dernière fois, Pascal. Profites-en. Ciao.
Bon, toi, t'as bien une tête de princesse, non ?
Oui, absolument.
Est-ce que tu rêves du prince charmant ?
Pas du tout.
Eh bien, ça tombe bien parce que il n'y a pas besoin d'aimer les princes charmants, d'aimer les princes... Voilà, il n'y a pas besoin. En fait... La fantaisie, ça raconte des histoires, effectivement, qui sont dans un imaginaire un petit peu, on va dire, enfantin, avec des princes, des princesses, des trolls, des gnomes, des nains, des fées. Mais en fait, Terry Pratchett, lui, le prend d'un point de vue humoristique. Si on regarde Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, où là, c'est quand même très, très, c'est de la hard fantasy, là, c'est plutôt dans la fantaisie humoristique. Alors, c'est à la fois aussi drôle, aussi subtil que certains films anglais, avec l'humour toujours un petit peu amusant, un petit peu recherché. Il y a un petit peu de Benny Hill quand même, hein, faut bien, c'est anglais, quoi. Mais, alors, avec des calembours, alors c'est vrai que si on n'aime pas trop les calembours, on est un petit peu gêné. Des calembours qui sont super bien traduits. D'ailleurs, le traducteur a gagné un prix tellement, parce que Terry Pratchett a sorti plus de 40 romans. Hein, c'est vraiment du lourd. Par rapport à tous ceux que tu as déjà entendu là, moi c'est pas n'importe qui, hein. Ça c'est monsieur, je pèse 65 millions de livres vendus, hein. D'accord, en Angleterre c'est le deuxième derrière la nana qui a fait Non, j'ai en train de te vendre que ça c'est pas un auteur, la fantaisie est souvent décriée comme un art mineur. Là, c'est du lourd. C'est du. Tous les adolescents, alors t'es peut-être un peu vieille, effectivement, pour pouvoir apprécier ce genre qui est plutôt réservé.
Histoire de sel, de troll, ça fait un moment que ça existe.
Alors, effectivement, il y a les ados plus les vieux mal attardés dont je dois faire partie qui aiment ce style-là. Voilà, non, mais enfin, c'est super drôle. Il se sert en fait de ça pour faire une critique de la société d'aujourd'hui. Même si il y a plein de trolls, de nains, de gnomes, de fées, en fait, ils nous parlent du racisme parce qu'en fait, Guéant nous fait un classement des civilisations, mais les trolls, les nains, les gnomes sont-ils vraiment inférieurs à nous?
C'est dommage, on aurait bien écouté Pascal encore pendant deux heures comme ça. Merci, c'est la fin du cinquième tour du speedbooking. Vous avez gagné. Et gagner des livres que Audible va vous distribuer. Et vous avez gagné le droit de discuter avec moi dans deux ou trois minutes pour savoir ce que vous avez retenu vraiment de ce qu'ils vous ont raconté. A tout de suite. Alors, c'est le débrief du speedbooking. Pendant que tu choisis des livres gratos de Des Poches Sous les Yeux, est-ce que tu peux
me... sur le site Des Poches et des Yeux, c'est génial.fr.
Alors, dis-moi ce que tu as retenu de ces trois speedbookers.
J'ai retenu qu'ils étaient tous assez passionnés par la lecture, qu'ils avaient tous envie de nous faire lire leurs livres, et ça c'est déjà plutôt intéressant. Après, est-ce qu'il faut que je refasse
Mais lequel? Est-ce qu'il y en a un qui te reste parmi les trois?
Est-ce qu'il y en a un qui me reste parmi les trois? J'ai bien aimé la description de la première
crocodile.
Ouais, voilà, crocodile, D-E-L. J'ai trouvé ça plutôt drôle. C'était clair, concis, on voyait bien l'univers dans lequel était posé le roman. J'ai bien aimé aussi, alors après j'ai une mémoire de poisson rouge, du coup j'ai pas retenu le nom.
Tony Pratchett.
Voilà. Ouais. Bon, c'est un petit peu provocateur de parler de choses plutôt qui concernent la vie quotidienne que du bouquin lui-même, mais c'était plutôt rigolo, ça donne envie, j'aime bien l'univers dont il a parlé. Et forcément, le troisième livre,
c'est un
sujet qui était quand même beaucoup plus compliqué. Du coup, on a moins tendance à envie de sourire. Mais il a bien exposé le sujet du livre, je pense. Mais je ne pense pas que j'ai envie de lire le livre.
Oh. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thomas.
Oui.
Alors. Est-ce que tu as retenu quelque chose?
Évidemment que j'ai retenu quelque chose.
Non, mais un truc que tu savais pas déjà.
Oui, alors je connaissais Daninx parce que j'avais lu Meurtre pour mémoire. Et c'est vrai que cette thématique sur des Noirs en 1920 en Allemagne, tout ça, moi c'est... Alors ça me parle pas parce que j'aime bien les romans qui sont pas basés sur des faits d'actualité. Je préfère m'évader, pas forcément dans la SF, mais... moi, celui que j'ai retenu vraiment, c'est le bouquin que m'a présenté Flavie.
Ouais.
Parce que...
Crocodile.
Ouais, c'est ces 10-18 domaines étrangers. Je fais en général confiance à cette collection. Puis c'est des histoires de losers américains, des gens décalés. J'aime bien ces histoires-là. Voilà. On sonne le gong, j'ai peur, non? Tout va bien. Alors évidemment, je remettrai une couche sur Pratchett parce que bon, j'ai lu près une vingtaine sur les 40 titres connus. C'est génial, décalé. Et ça montre notre société sous un angle de fantaisie alors que c'est pas de la fantaisie. Et c'est chouette.
Mais là, c'est trop facile pour Pascal parce que t'étais déjà...
Oui, j'étais déjà hyper convaincu sur Pratchett. Donc oui... Non, au final, j'ai choisi...
J'ai envoyé un mail pour lui dire « viens
». Ouais, c'est vrai. Mais j'ai choisi Crocodile, au final.
Ok, ouais. Très bien. Merci. Eh ben, mon troisième... Sois content de famille. Mon troisième chroniqué est parti. Fumer une clope, je ne sais pas. Donc, on se retrouve tout à l'heure sur Béton.
Bon, il est pratiquement 21h, Patrick. Hein, donc, c'est un petit peu l'heure de rendre l'antenne.
Putain, heureusement que t'es là, parce que sinon, moi, je continuais à faire du speedbooking. C'était trop bien.
Voilà, donc on était en direct Radio Béton des Joulins pour faire un speedbooking. On a speedbooké, on a conquis. Où est la patronne? Elle est même pas là. Elle est en train de. La patronne vient un petit peu. La patronne arrête, lâche ta clope et vient dire au revoir aux auditeurs. Hein, c'est quand même terrible ça. Nous avons des patronnes alcooliques et qui intoxiquées. Hein, quand je pense qu'elles ont des enfants, je me demande ce que fait la DAS. Hein. Viens nous dire au revoir, enfin viens dire au revoir aux auditeurs.
Au revoir, cher éditeur, auditeur.
Non, plus fort, parce que vraiment, à Des Poches Sous les Yeux, il y a quand même un problème de niveau. Ce...
Alors, chers auditeurs, retrouvez-nous bien sûr sur Béton trois fois par jour avec nos chroniques. Retrouvez-nous sur le site.
très souvent. Retrouvez-nous sur le site despochessouslesyeux.fr aussi, sur le site de Béton. Et puis surtout, la prochaine fois, venez nombreux à notre prochain speedbooking. On a besoin de vous et c'est très agréable.
Voilà, et donc là, on rend l'antenne à l'émission suivante. Hein, qui sera, elle, en direct des studios. À vous, Cognac G. (Musique)